France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Lundi, Donald Trump a présenté un plan de paix pour Gaza en 20 points suspendu à l'accord du Hamas. Un plan qui prévoit la libération des otages, la démilitarisation du Hamas ou encore l'instauration sur l'enclave gazaoui d'une administration étrangère. Sans calendrier précis ni intention claire concernant le futur d'un État palestinien, ce plan soulève de nombreuses questions. A-t-il été pensé pour la paix ou bien pour le business? Est-il un relent colonialiste? À quel point le processus va-t-il encore prendre du temps? Deux invités pour y réfléchir, pour en débattre. Yasmina Asragis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, chercheuse associée à l'université de Princeton. Face à vous, Ofer Bronstein, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes militant pour la paix, envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour le Moyen-Orient, fondateur de l'association Forum International pour la paix et d'une façon générale, autodidacte. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et pour commencer, un témoignage de Dominique Hédé, qui était l'invité de Questions du soir, hier, en deuxième partie.
Il s'agit surtout d'un ultimatum qu'on pouvait attendre compte tenu du rapport de force. Il y a un principe de réalité qu'il faut reconnaître, qui est que une toute puissance militaire israélo-américaine a en effet écrasé, non pas le Hamas, mais écrasé la population palestinienne. Mais, à vous dire vrai, le résultat pour l'ensemble de cette région est désastreux. Gaza est présentée comme une nouvelle principauté, me disait un Palestinien ce matin au téléphone. C'est comme ça qu'ils perçoivent cette nouvelle gestion mi-immobilière, mi-exploitation des gaz qui sont au large de la côte. Enfin, c'est une forme clarissime de colonialisme.
Une réaction, Yasmina Asragis. Est-ce que vous voyez dans ce plan avancé proposé par Donald Trump un ultimatum en premier lieu?
Je vois surtout dans l'application du plan de Tony Blair l'appel et le recours à la diplomatie privée, au consulting et au business, qui est la manière dont aujourd'hui la gouvernance des pays arabes se fait. Et que ce soit à Abu Dhabi, Riyad ou au Bahreïn, les Émirats et les princes héritiers ont coutume d'appeler ce genre de personnages, que ce soit Tony Blair, le BCG ou McKinsey, pour résoudre des grandes questions de gouvernance dans leur pays, dans leur région. Et aujourd'hui, on assiste à l'externalisation au domaine privé de la question de la paix et de la reconstruction à Gaza.
BCG, McKinsey, deux grandes entreprises de conseil. Ofer Bronstein, est-ce que vous portez vous-même la même analyse? Vous voyez dans le fond une privatisation de la diplomatie dans ce plan pensé par Tony Blair pour Donald Trump?
Tout d'abord, moi, je voudrais féliciter quand même ce plan, parce que je pense que le seul qui avait et qui a toujours de l'influence sur le Premier ministre israélien et le président américain, parce que les jours qui ont précédé ce plan, il y avait une mobilisation internationale, et conduite aussi par la France, mais pas seulement, pour la reconnaissance de la Palestine. Donc il y a eu un mouvement diplomatique ces derniers mois qui a poussé le président américain à comprendre que enough c'est enough, qu'il fallait arrêter ce massacre à Gaza, qu'il fallait tout faire pour libérer les otages et faire entrer massivement de l'aide humanitaire. Donc dans ce sens-là, j'espère que la première phase sera respectée, c'est-à-dire libération des otages, libération de prisonniers palestiniens, et arrêt de la guerre et aide humanitaire.
Vous félicitez, Ofer Bronstein, vous félicitez de l'existence de ce plan, mais quand on le regarde en détail, il n'y a pas de calendrier, pas d'avancée sur la reconnaissance de l'État de Palestine, pas de notion de paix juste et équilibrée, pas une seule mention relative à la Cisjordanie, pas de mention non plus sur le droit international. C'est malgré tout une réussite pour vous?
J'ai parlé de la première phase, vous avez remarqué. Pour moi, ce qui est une réussite, c'est que la guerre s'arrête, les otages libérés, les prisonniers palestiniens libérés, et une aide massive dans l'humanitaire. Dans ce sens-là, je félicite ce plan. Et j'espère que le président américain se donnera les moyens pour au moins que cette phase-là soit respectée par tout le monde. La deuxième et la troisième phase, je rejoins ce que dit Yasmina. Aujourd'hui, on a tendance à sous-traiter, à privatiser, ce qui montre du doigt, en fait, la faillite de la diplomatie et comme on la connaît. Je pense que aujourd'hui, dans beaucoup de chancelleries, il faut revoir le rôle de la diplomatie. Moi qui ai affaire fréquemment avec des conseillers diplomatiques, je peux vous dire que c'est pas toujours gai. Un manque de vision, un manque d'imagination, beaucoup d'ego. Et je pense déconnecter un peu de la réalité. C'est pas parce qu'on connaît trois mots en arabe qu'on devient spécialiste du monde arabe. Et c'est pas parce qu'on a un copain juif qu'on connaît, on est spécialiste du conflit israélo-palestinien. Donc, je suis d'accord avec Yasmina. Il y a de nouvelles aujourd'hui dynamiques qui se créent. Faut les vérifier, faut les contrôler. Faut les contrôler.
Yasmina Asraghi, est-ce que vous-même vous félicitez de ce plan? Je rappelle encore une fois, rien sur la Cisjordanie, pas de calendrier. On a l'impression que c'est un plan troué avec énormément de béances qui en disent plus long que ce qui est écrit parfois.
Alors ce plan, faut le comprendre comme l'espèce de continuité du plan Jared Kushner, qui avait été cette grande idée du deal du siècle pour Israël et la Palestine, avec sa première ambition qui avait été de créer une solution à deux États de toutes pièces, et pareillement en s'appuyant sur le travail du conseil de plusieurs boîtes, notamment à New York. Et donc ce premier plan qu'il avait présenté en 2019 avait été un échec absolu, mais il avait débouché sur les accords d'Abraham, plateforme autour de laquelle Tony Blair est intervenu et a soutenu plusieurs projets qui ont vu le jour suite à la signature des accords d'Abraham en 2020. Et donc, faut le comprendre comme le retour des acteurs de l'ère Trump 1, avec un peu plus de maturité, moins de temps et plus de connaissances et de confiance de la part des leaders arabes. Donc, si Tony Blair a été choisi, c'est d'abord parce qu'il a la confiance notamment de MBS à Riyad et de Mohammed Ben Ziyad à Abu Dhabi, puisque Tony Blair a un bureau à Dubaï. Et donc, ce que l'on est en train de voir, ça a été d'abord une conversation qui a commencé au printemps dernier, qui a été présentée sous forme de 20 points à Donald Trump à la Maison-Blanche le 27 août dernier. Donald Trump accepte le plan et dès lors, Tony Blair a dû se rendre dans les différentes capitales arabes pour obtenir un accord de principe. Cet accord de principe est arrivé de manière officielle autour de la table du sommet que Trump a organisé au lendemain de la reconnaissance de la Palestine par la France. Et suite à ça, il a fallu d'abord que Netanyahou présente une forme d'excuse au Qatar pour réconcilier un peu et apaiser la situation vis-à-vis des pays du Golfe. Et Netanyahou, on le sait aujourd'hui, quand il arrive à la Maison-Blanche face à Trump, Trump lui met un ultimatum et lui dit « Tu n'as pas d'autre choix que d'accepter ce plan, sinon on te lâche politiquement. »
On va entrer dans le détail de ce plan, puisqu'il est fait de 20 points, on le rappelle. Mais avant tout, Ofer Bronstein, on dit, on entend beaucoup que ce plan a également été inspiré par un plan pensé conjointement par la France et par l'Arabie Saoudite. Vous qui êtes en première loge justement dans ces négociations, est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Une des choses qui m'a étonné dans cette dynamique de Donald Trump, c'est que pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il écoutait les autres, qu'il s'est inspiré de ce que les autres ont dit, écrit et fait. C'est plus le Donald Trump qui est impulsif, décide tout seul. Je pense que sa conversation avec le président français la semaine dernière à l'ONU a eu un impact sur lui, surtout que la France n'est pas venue seule avec cette reconnaissance de la Palestine. Elle est venue avec encore 12 pays, et pas des moindres. Aujourd'hui, les États-Unis se sentent isolés sur la scène internationale parce que au Conseil de sécurité, les États membres permanents, la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine et les États-Unis, il y avait deux qui reconnaissaient l'État de Palestine. Aujourd'hui, ils sont quatre. Le seul qui reste, c'est les États-Unis. Pareil au G7. Il n'y avait pas de pays qui reconnaissaient la Palestine. Aujourd'hui, on a trois et peut-être cinq bientôt. Les États-Unis se sont isolés. Donc cet isolement, il l'a senti. Il a aussi dit quelque chose que moi je trouvais intéressant, c'est qu'il a dit qu'il a écouté les Israéliens, qui, comme vous le savez, depuis des mois, à 80%, manifestent quotidiennement pour l'arrêt de la guerre et la libération des otages. Donc je pense que toutes ces constellations, il y a quand même le plan de reconstruction de Gaza, et il a été voté par la Ligue arabe au mois de mars dernier au Caire. Moi, de ce que j'ai vu de chez Tony Blair, que Il y avait beaucoup de copier-coller. Il y a un autre plan qui est le plan français que j'ai aidé à élaborer, je le dis avec humilité, qui a été présenté déjà au mois de février dernier. Et je pense que le nôtre est plus écologique et plus proche de la volonté ou de besoin des Palestiniens qu'un plan qui se fasse uniquement, qui est basé uniquement sur le business.
Alors, point de ce plan, pour les prendre dans l'ordre, Gaza sans le Hamas, Gaza effectivement sera une zone déradicalisée et libérée du terrorisme, c'est ce que dit ce premier point, qui ne représentera pas une menace pour ses voisins. Est-ce qu'aujourd'hui, Yasmina Asrarghis, le Hamas est en mesure d'accepter concrètement ce plan qui a été proposé? Est-ce que, encore une fois, du point de vue diplomatique, le Hamas peut dire oui?
Alors, ce à quoi on assiste, c'est d'abord une pression assez forte du Qatar sur le Hamas, assez similaire à celle qu'exerce en ce moment même Trump sur Netanyahou. Et donc, on peut croire que ce plan va effectivement dans la bonne direction. Maintenant, si on écoute le Hamas, qu'est-ce que dit l'un des leaders qui, d'ailleurs, a échappé, entre guillemets, à la frappe à Doha? Pendant 4 heures, lors d'une interview sur CNN, il explique la chose suivante. Ils sont d'accord pour se retirer de la bande de Gaza et ne pas faire partie de la gouvernance de la bande. En revanche, ils estiment que sur le plan politique, ils font partie de l'ADN et du paysage politique palestinien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne lâcheront pas si facilement sur le plan idéologique et sur, sur la représentation qu'ils estiment de droit. Enfin, quand le président Macron reconnaît l'État de Palestine, il se présente comme légitime pour féliciter la France. Donc cette posture, si vous voulez, et cette espèce de position qu'ils ont consolidée au fil des années en récupérant notamment la bande et en étant violent vis-à-vis du Fatah et de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas, n'oublions jamais la violence qu'a été cette guerre fratricide au sein du camp palestinien. Tout ça soulève des questions et quand bien même il y a des fêtes militaires du Hamas, Ne jamais oublier que le mouvement reste politique, philosophique, idéologique, avec des idées qui, elles, ne s'effaceront pas quand bien même on reconstruit ou décide de faire entrer des acteurs du business.
Il faut par ailleurs préciser que ce plan, le point 6 en l'occurrence, prévoit d'organiser une quasi-amnistie pour les membres du Hamas. Si je le cite encore une fois le plan, une fois que tous les otages auront été rendus, les membres du Hamas qui s'engageront à coexister pacifiquement et à se désarmer bénéficieront d'une amnistie. Au Feuerbronstein.
Moi, je pense, encore une fois, si je dois parler de la phase 2 et 3 de ce plan, qu'il est, bien qu'il a laissé pas mal de choses floues et pour faire plaisir à son ami Netanyahu, parce que celui-là va faire face à une crise politique qui va l'obliger, à mon avis, à des élections prématurées au début du printemps. Et donc, il a laissé quelque chose de flou. Mais même dans ce flou-là, on peut lire deux choses qui sont fondamentales. Un, contrairement à Netanyahou, où il n'exclut pas l'autorité palestinienne pour jouer un rôle et contrôler Gaza, il dit que ce sera après ce qu'on dit nous et ce que le président Abbas a reconnu. Ce sera après des réformes que l'autorité palestinienne fera et des élections qui devraient se tenir dans 18 mois.
Mais donc exit le Hamas?
Exit le Hamas, ça tout le monde est d'accord. Même les pays arabes, c'est pour ça que par rapport à la question que vous avez posée à Yasmina, est-ce que le Hamas peut dire oui? Moi je dis que le Hamas ne peut pas dire non.
Ils sont acculés.
Ils sont acculés, il n'y a plus personne qui les soutient. Leur grand soutien, comme le dit Yasmina, le Qatar et aujourd'hui la Turquie, l'ont dit, basta. Ça nous porte trop de préjudice, on n'en veut plus. Maintenant Yasmina a raison, il s'agit d'une idéologie, pas d'une organisation. Le Hamas c'est du pan-islamisme, c'est les frères musulmans. C'est pas du nationalisme palestinien. L'OLP, c'est du nationalisme palestinien, du patriotisme palestinien. Et d'ailleurs, je pense que le Hamas est l'ennemi des Palestiniens. L'ennemi des Palestiniens dans la mesure où c'est pas la Palestine qu'il veut libérer, mais c'est une idée pan-islamiste beaucoup plus large que la Palestine, que ses ennemis jurés sur l'OLP, qu'il a massacré quand il a pris le pouvoir et qu'il continue à massacrer aujourd'hui, et qu'il appelle, il provoque quotidiennement, aujourd'hui encore, les Israéliens pour qu'ils frappent dans Gaza et pour que ça fasse encore plus de victimes du côté gazaoui. Donc ces gens-là doivent disparaître de la circulation. Leur idéologie doit être combattue, je suis d'accord. Mais l'idéologie du Hamas devra être combattue sur le long terme par l'éducation, par l'économie, par le progrès. c'est les investissements qui seront nécessaires pour combattre l'idéologie du Hamas. Le Hamas se nourrit de la pauvreté et de l'ignorance. Si on combat la pauvreté et l'ignorance, qui sont les fléaux que nous connaissons tous, surtout au Proche-Orient, on pourra combattre l'idéologie du Hamas.
On va parler de potentiels investissements à venir, mais avant cela, un mot sur la gouvernance. Et j'en reviens au point 9 de ce plan qui explique que Gaza sera gouverné en vertu de l'autorité transitoire temporaire d'un comité palestinien technocratique et apolitique, sous la supervision et le contrôle d'un nouvel organe international de transition, dit le Conseil de la paix, Yasmina Asrarghis. Concrètement, c'est encore un organe international qui va régenter la bande de Gaza.
Alors, pour expliquer ce long concept qui est kafkaïen, voilà, pour sortir du kafkaïen, il faut penser la chose comme une holding au sein de laquelle vous auriez un conseil d'administration, au sein duquel vous avez les pays arabes présidés par Donald Trump. Au sein de cette holding, vous avez une entité qui va s'appeler JITA, donc ce que vous venez de nommer, donc l'autorité gazaoui pour la transition et
Autorité internationale de transition pour Gaza.
Tout à fait, au sein de laquelle Tony Blair est actuellement en train de choisir un certain nombre de participants. Il semblerait qu'il ait choisi un de ses proches PDG égyptien et la liste continuera à s'étendre. Au sein de cet organisme, vous auriez apparemment des représentants de la diplomatie palestinienne. Donc, est-ce que ça veut dire des diplomates palestiniens à l'ONU ou au sein de l'Union européenne ? On ne sait pas encore. Et in fine, des représentants aussi du corps diplomatique onusien. Donc, on imagine sûrement des grands noms spécialisés en humanitaire. Donc, cette entité est transitoire et le but de cet organisme est à terme de le transmettre de manière embryonnaire à l'autorité palestinienne qui viendrait s'autogérer une fois que ce processus de transition serait terminé. On n'a pas exactement ni les étapes, ni le calendrier, ni la manière dont les choses vont être faites. Ce qu'on sait, c'est qu'une holding ne fonctionne pas seule. Donc que ce plan, contrairement à d'autres plans, que ce soit le franco-saoudien ou d'autres plans, il est financé. Donc les fonds existent. Et donc la holding et le travail peut commencer, parce que Tony Blair n'est pas à la tête d'une ONG. Il travaille avec des contrats signés en millions de dollars, et en l'occurrence en millions de rials.
Ofer Bronstein, ces diplomates et même la figure de Tony Blair qui peut surprendre, j'allais dire sa réapparition pour des gens qui ne suivent pas le dossier au jour le jour, est-ce que Tony Blair vous paraît légitime à organiser cette transition ?
Moi j'ai certaines réserves et je vais vous dire lesquelles. Tout d'abord, c'est vrai qu'au niveau symbolique, voir un Britannique reprendre le contrôle d'une partie de la Palestine, ça rappelle de mauvais souvenirs aussi bien aux Palestiniens qu'aux Juifs sionistes. On a quitté l'Angleterre, a foutu le bordel dans la région.
Faites référence à Balfour, notamment.
Pas seulement à Balfour. Là, c'est entre la France et l'Angleterre, ils se sont divisés le Moyen-Orient. On en a connu les implications jusqu'à aujourd'hui, y compris le conflit israélo-palestinien qui est la naissance d'une mauvaise vision de la part des puissances colonialistes de l'époque. Donc au niveau symbolique, est-ce qu'on veut voir un Britannique reprendre le contrôle ? Je sais pas. Ce que je sais, de toute façon, tout sera possible que s'il y a une volonté palestinienne. On ne peut pas le faire contre la volonté de 7 millions de Palestiniens. Et surtout, avec tout le respect que je dois à M. Trump et à M. Tony Blair, on ne pourra pas le faire sans les Européens. Pour l'instant, l'Europe est le principal financier de l'autorité palestinienne. Sans l'Europe, il n'y a pas d'autorité palestinienne, simplement. Ils ne peuvent pas survivre. Et l'Europe est aussi, entre autres, le principal partenaire économique d'Israël. Donc, jusqu'à maintenant, c'est l'Europe qui a permis à Israël, économiquement, d'en faire presque partie. Et c'est l'Europe qui a permis à l'autorité palestinienne, depuis 30 ans, de survivre. Donc, essayer de le faire sans l'Europe, ça marchera pas. Ou alors, on veut plus le chéquer de l'Europe, ce qui m'étonnerait de la part de Donald Trump. Donc, il ne peut pas, lui, décider de gérer ça avec son ami anglais sur le compte des Européens. Donc, les Européens doivent avoir une bonne place autour de la table et ne pas être tenus à l'écart. Parce que politiquement, pour une fois, l'Europe, plus ou moins, a été unie pour dire non à cette guerre et oui à de nouvelles perspectives politiques. comme la création de l'État palestinien. À part l'Europe, il y a les pays arabes. C'est les pays producteurs de pétrole et de gaz qu'on va vouloir demander de payer la facture. Donc je pense pas aujourd'hui qu'ils vont vouloir payer la facture sans être autour de la table eux aussi. Et surtout les Palestiniens. On ne peut pas faire quelque chose contre leur volonté.
C'est ce que j'allais vous demander, Yasmina Asrarghis. Est-ce que, dans le fond, cette gouvernance a été pensée d'une manière ou d'une autre avec les Palestiniens, avec certains représentants du peuple palestinien, ou tout au long du processus, ils ont été mis à l'écart même de la réflexion?
Alors, moi, je pense que Mahmoud Abbas est très loin d'être de se laisser emporter par des dynamiques strictement européennes, et c'est très bien que toute solution viendra par Washington ou Riyad. Donc, tout au long du processus de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, il a veillé à garder les écoutilles très ouverts en direction de Riyad et de Washington. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque le choix de Tony Blair est fait par les Émirats ou Riyad, puisque cet homme a la confiance de ces pays, et c'est une région où il faut systématiquement aussi faire la distinction entre les Palestiniens et les Arabes. Les Arabes, ne l'oublions pas, pensent effectivement à Tony Blair comme le soutien américain de l'invasion de l'Irak, celui par lequel aussi Saddam Hussein a été assassiné. Mais n'oublions jamais que du point de vue des pays du Golfe, Saddam Hussein reste celui qui décide d'envahir le Koweït. Et donc, il y a du ressentir par rapport à ça. Deuxième point, Yasser Arafat a soutenu Saddam Hussein dans l'invasion du Koweït, a soutenu cette position, suite à quoi il a perdu les fonds des pays du Golfe. Donc tout ça est extrêmement complexe, et du point de vue des Arabes du Golfe, Tony Blair n'est pas un acteur qu'il déteste ou qu'il méprise, bien au contraire, c'est quelqu'un avec lequel ils ont pu travailler, et il a même contribué à toutes les visions dans le Golfe, vision 2030, vision 2040, vision machin, il les a tous aidés. Donc, en revanche, du point de vue des Palestiniens, effectivement, quand là on a pu voir plusieurs interlocuteurs ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on leur met un Tony Blair entre les pattes. Et donc, ce multi-niveau est toujours essayer de se mettre à la place du décideur à Washington, le décideur à Ramallah, qui n'est pas la rue arabe de Gaza, et qui n'est pas non plus le prince héritier à Riyad. C'est en essayant de comprendre le multiniveau de cette équation que l'on arrive un peu à faire sens de ce qui est en train de se jouer.
Ofer Bonstein, le point 10 du plan de Donald Trump prévoit non plus un plan de développement économique pour reconstruire et, je cite, dynamiser Gaza en réunissant un panel d'experts et en contribuant à la naissance de certaines des villes modernes florissantes du Moyen-Orient. Fin de citation. Est-ce que on lit là, entre les lignes, la volonté, voilà, de créer cet espace de vacances, cet espace immobilier dont que Donald Trump évoque depuis plusieurs mois désormais?
Mais lui, il dit les choses d'une façon crue, à sa façon. Mais bien sûr qu'il va falloir prendre en compte la dimension du progrès et de la reconstruction de Gaza. J'allais dire, en fait, c'est pas reconstruire Gaza qu'il faut aujourd'hui.
Mais pardonnez-moi, lorsqu'on sait qu'il faudra 20 ans pour évacuer les 50 millions de tonnes de débris, est-ce qu'on peut penser d'ores et déjà, c'est ce que disent les chiffres et les experts du moins, est-ce qu'on peut d'ores et déjà penser, j'allais dire, à reconstruire des hôtels pour accueillir des touristes?
Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. S'il y aura une volonté politique, et les moyens existent, mais une volonté, une dynamique politique avec un bon management. Le management ne pourra pas être celui uniquement de Tony Blair. Il va falloir des gens de qualité autour de lui. Vous demandez s'il est palestinien ou non. Bien sûr, il y a plusieurs noms qui ont été cités ces derniers temps. Samir Khoulele et d'autres qui ont une expérience économique, qui ont une expérience de développement, qui peuvent et qui doivent jouer un rôle très important. Ça ne peut pas être que l'homme blanc qui va parler aux natifs palestiniens en leur disant « Voilà, je suis venu vous montrer la bonne voie ». Non. Ça va être en association avec les acteurs locaux et bien entendu avec le monde arabe. Moi, je ne vais pas trop me prononcer sur Tony Blair. Ça sera aux gens sur place de se prononcer. Il a eu certains succès au niveau business, comme le DS Smith. Mais d'un autre côté, quand il a été nommé à la tête du quartet, à l'époque, il devait être la force motrice d'un accord de paix israélo-palestinien. Le quartet, c'était l'ONU, c'était la Russie, c'était l'Europe et c'était les États-Unis. Eh bien, il a failli. Tony Blair a disparu, le quartet n'a pas marché. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons 5 défis à relever. Et tout d'abord, je crois que il va falloir, pour essayer de traiter la dimension idéologique dont Yasmine parlait, que tout ce qui va, quand il va s'agir de construire Gaza, on doit le faire en ayant une vision économique aussi, et pédagogique et politique aussi, c'est-à-dire combattre la pauvreté, investir dans l'éducation, donner des perspectives d'espoir à ces centaines de milliers de Palestiniens qui ont vécu depuis 2 ans un calvaire. Donc ça doit être une ville. Je vais vous donner un chiffre. Dans le plan que j'ai proposé aux Français, qui a été repris en partie par la Banque mondiale et Tony Blair, je chiffrais à 73 milliards de dollars la reconstruction de Gaza. La construction de Gaza. La Banque mondiale l'a chiffré à 53 milliards. Je ne sais pas, important, 10 ou 20 de plus. Mais pour vous donner une comparaison, en un an, les pays du Moyen-Orient ont dépensé 200 milliards de dollars en armement. Alors si on met un an d'armement face à une stabilité et un progrès pour Gaza sur l'avenir, c'est même pas un tiers des dépenses militaires. Donc c'est une question de choix que la communauté internationale doit faire, et je pense qu'elle va faire les bons. Ça ne sera pas uniquement une Pax America. Les Français, les Palestiniens, les Européens doivent s'y associer, ils le seront.
Yasmina Asraghis, un mot justement sur ce plan de développement et ses promesses d'investissement.
Le plan lui-même est reflète une manière de penser aujourd'hui le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient apparaît, en particulier Gaza aujourd'hui, comme un marché. L'appel d'offres a aujourd'hui été gagné par Tony Blair. Et aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est à qui est-ce que l'on donne une partie des contrats. Et en fonction des investisseurs et des hommes d'affaires qui vont être choisis, soit des hôpitaux et des écoles vont être construites, soit la reconstruction va se focaliser sur d'autres types d'infrastructures plus rentables selon les chiffres et selon les plans qui vont être décidés.
C'est pas soit ou donc, soit, ça peut être... Ça et ça.
On espère.
Enfin,
on espère.
Une vision holistique. Mais
on ne sait
Gaza
pas.
Le Gaza de demain.
Évidemment.
Les hôpitaux, les universités.
C'est ce que l'on espère. C'est ce que l'on espère.
Un port, un aéroport.
Je voulais vous faire entendre la voix du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il s'exprimait le 29 septembre, justement à propos de cet accord proposé par Donald Trump.
Si tout se passe comme je l'ai esquissé, la guerre sera terminée de façon permanente. Il faudra démilitariser et s'en tenir à cette zone démilitarisée à l'avenir. Nous donnons à tout le monde une chance de réaliser cet accord par la paix, atteindre les objectifs du début de la guerre sans davantage de bains de sang. Mais si le Hamas refuse votre proposition, Monsieur le Président, alors Israël terminera le travail. Ça peut se faire par la manière forte ou non, mais le travail sera fait.
Ofer Bronstein, on est d'accord, vous le disiez pendant ce son, que cela ne signifie pas grand-chose, terminer le travail dans la bouche du Premier ministre israélien. Et pourtant, est-ce qu'il pourra politiquement respecter cet accord malgré la pression de l'extrême droite israélienne ?
Non, il ne peut pas politiquement le respecter, mais il n'a pas le choix, il doit le respecter. Ça a été imposé par le président américain. Point barre.
La pression américaine sera plus forte que l'extrême droite israélienne ?
Oui, je pense qu'on va vers de nouvelles élections. Déjà, une partie des partis religieux ont quitté la coalition il y a quelques semaines pour d'autres raisons, pour l'histoire du service militaire. Les extrémistes suprématistes fascisants qui font partie de ce gouvernement ont déjà exprimé qu'ils ne voulaient pas de ce plan. Ils l'ont comparé à Munich. Donc je ne vois pas comment ils peuvent survivre ce genre de situation politiquement. Il y aura, je suppose, des élections prématurées entre février et avril prochain. C'est le début de la fin du règne de Netanyahou. Et je vois cette arrogance encore. Ça veut dire quoi, terminer le travail ? Il y a 65 000 morts, 300 000 blessés. Et Gaza est un champ de ruines. Ça veut dire quoi, terminer le travail ? C'est tuer encore combien de Palestiniens innocents ? C'est ne pas libérer les otages. Et quel travail il a fait dans cette histoire, je m'excuse, de m'emporter ? Mais le travail, il n'y a aucun travail qui a été fait. Il y a la misère pour les Palestiniens. Vous savez, ce rapport de Donald Trump permet aux Israéliens, aux Palestiniens de sortir la tête haute et de crier victoire, ce qu'ils sont en train de faire. Mais en fait, tout le monde a perdu dans cette histoire. La société israélienne est divisée, fracturée, endeuillée, encore inquiète pour le retour de ses otages. La Gaza a été totalement démolie, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés, des dizaines de milliers d'orphelins, des dizaines de milliers d'amputés. De quelle victoire on parle? C'est une défaite pour la communauté internationale, c'est une défaite pour Israël, c'est une défaite pour les Palestiniens. Et c'est dans ce sens-là qu'on a peut-être de l'espoir. Parce que de cette défaite, comme en Europe, quelque chose de bon peut être reconstruit.
Vous partagez cet avis, Yasmina Asrarghis. On est sur le point d'assister au début de la fin de l'ère Netanyahou, car la pression américaine est trop forte justement pour demeurer dans ce statu quo politique.
La fin de l'ère Netanyahou, je ne pense pas. Elle a commencé en 90. Il a établi des idées qui resteront même s'il quitte le pouvoir. Hier, l'un de ses plus proches conseillers, Ron Dermer, a décidé de quitter le cabinet, ce qui veut peut-être dire qu'il va travailler sur la campagne ou la création d'une nouvelle coalition dans les coulisses. Donc, faut être très prudent sur un Netanyahou qui partirait, parce qu'il arrive toujours à revenir par là où on ne l'attend pas. Maintenant, effectivement, Trump a un droit de vie ou de mort sur sa carrière politique. Et ce qu'il n'avait pas perçu en arrivant à New York, c'est qu'effectivement, Trump a sifflé la fin de la récréation pour lui. Il pensait qu'il allait pouvoir continuer une guerre sans but à Gaza. Maintenant, on n'en est plus là. Et effectivement, la question de l'implémentation réelle de ce plan et du côté israélien et du côté du Hamas va se jouer dans les prochains jours. On attend encore aujourd'hui le retour du Hamas. La question de la libération des otages implique également qu'il n'y ait pas eu de perte de contact avec certains d'entre eux. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant sur l'implémentation de chacune des étapes.
D'un mot, Donald Trump avait donné 72 heures au Hamas. 72 heures depuis lundi soir, c'est donc maintenant. Ce soir. Qu'est-ce que le Hamas attend justement pour se prononcer?
C'est pas par hasard qu'il a dit ce soir, d'ailleurs. Vous savez, j'en profite, si ça vous dérange pas, c'est le jour de l'an juif qui commence. C'est la fin de Kippour ce soir. Donc je souhaite une bonne année à tous vos auditeurs juifs. Et j'en profite aussi parce que c'est le grand pardon qui se termine, Kippour, de moi en tant que juif israélien. Je le fais à chaque occasion que j'ai ces derniers temps de demander pardon aux Palestiniens innocents qui ont été les grandes victimes de cette guerre. Et moi en tant que juif israélien, je veux leur demander pardon. Maintenant, je pense que j'espère, comme Yasmina l'a dit, que nouvelle ère commence. Il faut absolument que ce massacre s'arrête pour qu'on reconstruise.
Merci beaucoup à tous les deux de vos éclairages. Ofer Bronstein, militant pour la paix, envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour le Moyen-Orient, fondateur de l'association Forum International pour la paix. Yasmina Asrarghis, spécialiste du Moyen-Orient, chercheuse associée à l'université de Princeton. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont fait cette émission. Antoine Héral, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey, Juliette Moellic. Et je signale cette vidéo sur les réseaux sociaux de France Culture pour approfondir, poursuivre justement l'avenir de Gaza. Une vidéo intitulée « Faire de Gaza une Riviera, les origines du projet ». Merci encore à tous les deux d'être venus ce soir dans Question du Soir.
Merci.